Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC.
L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Si jamais vous avez un problème de taille, téléphonez-moi.
Eh oui, c'est ça. Téléphonez à Patrick. Alors, c'est vrai qu'en cette période de taille, propice aux tailles, je le disais, de toutes sortes, la polémique fait rage, Patrick. Les grosses plaies de coupe doivent-elles être protégées ou pas? Avec quoi? Leur rôle? Peut-être pour commencer, directement dans la pratique, Patrick. Pratique Patrick, hein, et pas l'inverse, parce que ça marche pas. Que taille-t-on en ce moment, en cette mi-novembre?
Alors, à partir du moment où nous sommes entrés dans la période de dormance, et on sait que la plante est en dormance à partir du moment où elle s'est débarrassée de toutes ses feuilles. Ça, je parle pour les plantes à feuillage caduc, et ben là, vous allez pouvoir les tailler. Par exemple, les figuiers. Les figuiers, c'est le bon moment de tailler les figuiers, si vous avez récolté, etc. Les feuilles sont tombées rapidement. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? Ben, on est, d'une manière générale, pour tous les arbres qui sont ce qu'on appelle plein vent, c'est-à-dire dans une forme naturelle, on va plutôt éliminer les pousses qui sont en surnombre, qui se développent vers le centre. Alors, pas forcément sur toutes les plantes, par exemple sur les oliviers, qu'on taille pas d'ailleurs en ce moment, on va les tailler plutôt à la sortie de l'hiver, mais on va avoir une forme aérée, mais pas en gobelet évasé, creux au centre. Bon, ça c'est un peu plus rare. En ce moment-là, vous pouvez tailler les arbres, qu'on appelle l'élagage. Alors, l'élagage, c'est périlleux. Hein. Moi, je vous conseille, si vous avez des arbres de grande taille à faire élaguer, appelez plutôt un professionnel, même si ça coûte un peu cher, c'est très important. Voilà. On taille les haies, on taille les kiwis, on commence les tailles fruitières aussi de pommiers poiriers, hein, bien sûr.
Alors Patrick, est-ce que la taille peut être considérée comme une blessure qu'on fait à la plante?
Oui, tout à fait. On casse un rameau, on va trancher, on va laisser une plaie à nu, mais il faut savoir que les arbres ont une faculté, on va dire, de protection, de régénération, pas comme nous. Nous, par exemple, si vous vous coupez,
François, ça repousse moins, nous, en plus.
Enfin, mais, pas tout. Mais non, nous, par rapport aux arbres, on cicatrise réellement. C'est-à-dire que vous vous coupez, vous allez avoir des tissus nouveaux qui vont se former, puis au bout de quelques jours, vous verrez plus rien. Sur un arbre, pas du tout. Sur un arbre, il va se passer un phénomène protecteur, mais la plaie reste présente tout le temps, même si elle sèche en apparence. En revanche, il a une faculté de régénération, parce que les petits bourgeons qu'on voit pas souvent, qui vont être à la base de l'endroit qui a été coupé, eux, sont capables d'émettre de nouvelles pousses. Ce qui n'est pas le capable chez vous, si vous coupez un doigt, vous régénérez pas le doigt.
Alors pourquoi a-t-on traditionnellement protégé les plaies causées par la taille?
Eh bien, c'est surtout pour éviter que des bioagresseurs, comme on dit aujourd'hui, des agents pathogènes, que ce soit des maladies cryptogamiques, virales, bactériennes ou des insectes, viennent utiliser, si vous voulez, la plaie comme une porte d'entrée pour venir parasiter la plante.
D'accord.
Et puis aussi pour éviter l'humidité, parce que l'humidité favoriserait justement le développement des moisissures, par exemple.
Les champignons, les choses comme ça.
Exactement,
aussi.
Ce qu'on vient de dire.
Quels sont les produits utilisés en tant que cicatrisants pour les plantes?
Alors, ce sont essentiellement des résines, et il faut savoir qu'elles sont toutes d'origine naturelle aujourd'hui. Donc, ce sont, par exemple, de la résine de pin, c'est peut-être pas totalement conseillé, mais de la résine végétale, du benjoin, par exemple, de l'argile, de la cire d'abeille, de la propolis, c'est-à-dire cette résine qui est fabriquée par les abeilles, qu'elles utilisent pour colmater l'intérieur de la ruche, par exemple, et qui a un vrai rôle, disons, anti-moisissure, ça c'est important. Alors, n'utilisez pas, en revanche, le goudron de Norvège. Vous savez, le goudron de Norvège, c'est un produit qu'on utilise pour les bois morts. C'est-à-dire que quand vous voulez étanchéifier, par exemple, une construction en bois, mais pas du bois vivant.
Patrick, je taille. Est-ce que je mets du cicatrisant tout de suite?
Oui. Oui, oui.
D'accord.
Oui, on n'attend pas que ça sèche. Alors, sauf, mais on ne met pas de cicatrisant du tout. Si vous coupez un cactus, par exemple, vous allez avoir une sorte de sécrétion. Alors, si c'est certaines plantes succulentes comme les euphorbes, c'est un latex. Si c'est un cactus, c'est une sorte d'eau. Et tout d'un coup, il y a une pellicule de cicatrisation qui va se faire. Là, vous ne faites rien. Mais sur un arbre, oui, on va appliquer le mastic rapidement si on en met.
Est-ce qu'il existe des cicatrisants en bombe, par exemple?
Ah ouais, mais moi, j'aime pas trop les utiliser. Alors, c'est vrai que c'est présenté comme quelque chose de pratique, mais si vous l'avez déjà utilisé, vous allez voir que ça en balance partout. Et franchement, Moi, j'aime mieux du cicatrisant en pâte parce que vous allez l'appliquer.
Avec la spatule, c'est ça?
Voilà, précisément, sur la plaie, en faisant déborder la pâte. Tandis que le cicatrisant en bombe, mais franchement, j'allais dire un mot qu'on dit pas, mais c'est franchement très sale, on va dire. Mais vous pouvez dire autre chose.
Comment le cicatrisant va-t-il agir sur la plante, Patrick?
Alors, il ne va pas cicatriser. Il faut bien être clair. Il va simplement avoir la possibilité de créer une barrière, comme je disais, contre les bioagresseurs, et une barrière étanche à l'eau. C'est uniquement ça. Alors certains stimulent le processus d'autodéfense de l'arbre, c'est-à-dire le cloisonnement, comme on appelle aujourd'hui, la plante étant capable de créer des espèces de portes étanche pour empêcher la pénétration des ennemis et maladies. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, elle enferme le tissu abîmé, le tissu malade éventuellement, dans une sorte de gangue qui va permettre au reste de la branche d'être protégé.
Alors, il y a les anti-cicatrisants, c'est-à-dire les personnes qui disent « non, il ne faut pas en mettre ». Alors, pourquoi disent-ils qu'il ne faut pas en mettre? Est-ce que, par exemple, si on ne met pas de cicatrisants, les plantes se portent moins bien?
Alors, on se rend compte aujourd'hui, et c'est vrai que moi, je travaille régulièrement pour notre chaîne YouTube News Jardin TV avec un spécialiste de la taille qui n'utilise pas le mastic, mais deux choses. Il nettoie ses outils de taille systématiquement avant l'intervention.
À l'alcool?
Non, avec des produits désinfectants spécifiques et qui en même temps retirent la résine qu'il peut y avoir eu avec des précédentes coupes. Deuxièmement, il affûte tout le temps ses outils de manière à ce que la coupe soit
la plus nette
impeccable.
D'accord.
Et il utilise des scies à denture japonaise qui, au lieu de hacher les tissus comme le font la plupart des scies classiques, laisse une plaie vraiment lisse. Et ça, c'est important, c'est-à-dire la qualité de la coupe, la forme de la plaie aussi. C'est-à-dire que, globalement, il faut essayer que la plaie soit pas concave. Il faut pas qu'elle soit creuse au milieu pour pas que l'eau puisse stagner et là, favoriser justement le développement de moisissures. Ça, c'est très, très important. Alors, pourquoi est-ce qu'on reproche l'utilisation de ces mastics? Tout simplement parce que j'ai expliqué ce qu'ils faisaient et le fait de faire cette protection, d'amener une certaine chaleur et peut-être parfois de l'humidité en dessous, ça risque de favoriser le développement des maladies. Et ils disent aussi, pour certains, que de toute façon, ça ne sert à rien puisque la plante est totalement capable de se débrouiller toute seule.
Voilà pour la taille et mini-polémique. Hein. Pour terminer, Patrick, vite fait.
C'est-à-dire que je dirais quand même qu'à partir de 5 cm de diamètre, faites quand même un masticage. Ça sera mon conseil perso.
Voilà, le conseil de Patrick. Il est 6h27. On revient dans un instant et on enchaînera avec les nouvelles techniques et préparations du potager. Et puis, bien sûr, vos questions au jardin. Dès maintenant, 3216, Amina vous attend, ou via l'appli RMC et Direct Studio, avec votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. On attend vos questions. On revient juste après la météo.